Salut à tous les amis, c'est Poulpi Blast et bienvenue sur Original Sandboggers, comme tous les mois en fin de mois, le sixième épisode maintenant. Vous commencez à en avoir l'habitude. À mes côtés, comme chaque mois, Onink, comment ça va?
Salut tout le monde, ça va très bien.
Et toujours évidemment, Mr. RockPsy95, plus connu sous le nom de Victor, de son prénom véritable. Comment ça va, Victor?
Ça va, motel.
Un podcast que nous enregistrons exceptionnellement un petit peu à l'avance. Donc nous diffuserons deux semaines après enregistrement, puisque vous comprenez, les examens des uns, les vacances des autres, et un podcast un peu inhabituel déjà, puisque sans invité, effectivement on s'est dit voilà, une petite liberté, on va faire ça vite justement à cause de tous ces examens et tout ça, le mois de juin est un peu compliqué pour tout le monde, donc pas d'invité et un thème un peu compliqué et facile à la fois, dans le sens où il nous permet de choisir des morceaux assez simplement, mais qu'il faut aller les chercher, ces morceaux. Ce sont des thèmes qui ne sont pas très très courants dans les musiques de jeux vidéo, à savoir les thèmes chantés. Et nous écoutons en fond pour l'instant le Metal Gear Solid 3, un morceau qui s'appelle Snake Eater, chanté par Cynthia Harrell.
Alors, ce morceau, c'est comme le nom l'indique, de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, et qui en fait est l'intro du jeu, mais la seconde intro du jeu, parce que Metal Gear Solid 3, à la manière de Metal Gear Solid 2, est coupé en deux parties. Donc la première, c'est la mission vertueuse qui nous envoie avec Big Boss faire une première mission préliminaire, et à la fin de cette mission ça coupe, et en fait là le vrai jeu entre guillemets se lance, et c'est Snake Eater qui joue le rôle d'intro et de chanson transitoire. Et c'est une chanson vraiment qui a été composée par Eka Muranaka, qui a fait aussi The Best Is Yet To Come, qui a fait les chansons de l'épisode 2. Et une chanson qui est vraiment superbe parce qu'elle a une intensité assez dingue, je trouve.
Très très beau jazz.
Ouais, et puis très très belle voix aussi.
Assez peu courant d'ailleurs dans ce genre de jeu.
Ouais. Côté James Bond, je trouve, pour cette introduction.
Ouais, pensé exactement la même chose en l'écoutant, ouais. Ouais. James Bond.
Puis là, totalement. Ça se marie très très bien avec les images aussi. Je sais pas si vous avez l'occasion.
Ouais, le générique est vachement classe. Hein.
Et donc comme on l'a dit, un podcast un petit peu étrange ce mois-ci, et donc un départ volontairement totalement what the fuck, puisqu'on va passer de Metal Gear Solid 3, d'un jazz très voilà, très James Bond, très classe, à Jet Set Radio. Jet Set Radio est donc une BO, comment dire, je trouve pas de mots en fait, groove, rap, funk, musique de la rue, ça vient de la rue, un morceau qui s'appelle Let Mom Sleep. Alors Jet Set Radio, qui est sorti sur Dreamcast en 2000, BO mix de plein d'artistes dont certains plus ou moins connus comme Rob Zombie ou Jurassic 5 pour ceux qui connaissent ces styles là, un morceau qui est Hideki Naganuma. Je sais que Victor, Jet Set Radio ça a été ta BO coup de cœur l'an dernier je crois.
Ouais, j'ai découvert ça parce que je cherchais un peu de la... des BO un peu particulières, et puis j'en avais entendu parler dans des podcasts de Gameblog notamment, parce que je sais que Julio aime beaucoup cette BO. Et puis je suis tombé sur cette musique très urbaine, super groove, et qui donne une pêche pas possible, je trouve. C'est super rythmé, c'est vraiment pas banal, et du coup moi c'est devenu ma playlist, c'est un peu mon Eye of the Tiger à moi, de cette radio. C'est la musique que je me passe quand j'ai besoin d'être motivé, parce que voilà, elle donne la pêche, et puis il y a des morceaux qui sont complètement barrés.
Ça, c'est sûr.
Petite mention aussi à la BO de Jet Set Radio Futur, qui est plus électronique, qui est vachement bien aussi.
Ouais, moi par contre, je supporte pas cette BO, même la musique qu'on est en train de passer en ce moment, j'ai même pas écouté, enfin j'ai vraiment un problème avec cette OST, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est trop le bordel, c'est pas assez structuré, j'aime pas, voilà.
Le plus classique, monsieur.
Souvent dans les jeux de sport extrême, bon là c'est du roller hein, je crois, ouais. Dans les jeux de sport extrême, il y a souvent des BO un peu... totalement voilà, bizarre comme ça. Moi j'ai souvenir de 1080 degrés snowboarding sur Nintendo 64 qui partait un peu dans tous les sens comme ça, avec des voix qui rimaient à rien, mais bon, ça passe dans un jeu comme ça, en fait ça passe, ça met de l'ambiance.
Oui, et puis ça va complètement avec l'univers quoi, qui est complètement assez marré aussi. Le cel shading était assez inhabituel à l'époque, donc ça renforçait un peu le côté bizarrerie du jeu.
Bon, c'est sûr que ça va bien avec le jeu. Après moi j'écouterai pas ça en dehors.
Nous allons continuer dans cette veine totalement étrange avec un jeu dont la BO est également très 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 riche, avec énormément de styles différents. Katamari Damacy, jeu sorti sur PS2 en 2004. Quelqu'un y a joué à Katamari Damacy?
J'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais bien, parce que ça m'attire beaucoup, mais malheureusement, j'ai pas eu encore l'occasion de m'y frotter.
un morceau qui s'appelle The Moon and the Prince, un rap en japonais sur fond électro-groovy avec piano et batterie. Alors, un jeu développé par Namco et les musiques sont de Yu Miyake. Il y a beaucoup de styles différents dans cette BO, donc là on entend un espèce de rap un peu groovy, voilà, comme je le disais, mais on a beaucoup hésité en préparant cette émission de savoir quel morceau on allait passer, parce qu'il y a du jazz un peu bebop, il y a du classique, il y a des fugues a cappella, il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà, The Moon and the Prince, donc morceau qui allait finalement assez bien avec le Jet Set Radio que nous écoutons pour l'instant.
On va peut-être rappeler le principe du jeu quand même pour ceux qui connaissent pas. C'est alors Katamari, c'est un jeu qui a un scénario complètement débile. Vous avez le roi du cosmos qui a son fils, le prince du cosmos, qui doit aller à l'aide de Katamari récupérer des items. Et en fait, vous contrôlez une boule collante qui, à chaque fois qu'elle roule sur quelque chose colle à la boule, au Katamari. Et donc, en fait, vous allez contrôler cette boule et rouler sur tout. Et plus vous amassez de choses, plus vous pouvez agglomérer, on va dire, de choses encore plus grandes. Donc, vous commencez par des punaises, et puis vous allez absorber des tables, et puis des gens, et puis des maisons, et puis des bâtiments entiers, enfin, des animaux. Tout ça sur un design ultra simpliste, mais complètement déjanté, hyper coloré. Et puis voilà, il y a des musiques, notamment dans un niveau de zoo, où les musiques sont faites par des bruits d'animaux, en fait. Donc c'est comme du rap, mais avec des bruits d'animaux, donc des lions, des vaches. Ça fait partie des espèces de bizarreries japonaises que certains adorent et que certains détestent.
Laissons les auditeurs en juger. Donc Katamari Damacy, The Moon and the Prince. Katamari Damacy, donc un petit ovni dans sa bande originale et dans son jeu. Donc on vient d'écouter The Moon and the Prince, et on va passer en fond à quelque chose déjà de beaucoup plus léger. Dragon Age Origins, un morceau qui s'appelle Liliana's Song. donc RPG de BioWare sorti en 2009, des musiques d'Inon Zur dont on a déjà parlé pour son œuvre dans Fallout 3. Alors Onink, on le sait maintenant au bout du sixième épisode, Onink c'est Monsieur RPG occidentaux dans OSB. Ah,
n'exagérons pas, mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu et Dragon Age c'était une belle petite surprise. Donc c'est la deuxième grosse série du moment de cette génération de BioWare, avec Mass Effect donc, qui compte, donc Dragon Age pour moi ça compte qu'un seul épisode, parce que le Dragon Age 2 étant oublié complètement, c'est vraiment une bouse infâme, c'est très très mauvais. Mais par contre le premier Dragon Age c'est très bon, c'est du RPG BioWare classique, c'est-à-dire assez peu de liberté comparé à un Skyrim par exemple. C'est pas super ouvert mais on a des possibilités de gameplay assez importantes en termes de stratégie, de compétences et de choix moraux dans l'histoire. Donc comme pour Mass Effect, on s'attache vraiment aux personnages qui sont pratiquement tous réussis, dont Leliana, la barde très sexy dont on entend le thème en ce moment. Donc voilà, Dragon Age, très bon jeu, même si extrêmement classique dans sa construction, avec heureusement une patte BioWare assez prononcée. Et pour ce qui est de la BO, tu l'as dit, Inon Zur, c'est un mec super prolifique, on en a déjà parlé, voilà, c'est de l'heroic fantasy, pas de surprise, c'est efficace.
C'est vrai que ce style de classique très léger, comme ça, avec une femme qui chante derrière, avec des accents un petit peu celtiques, moi ça me rappelle beaucoup Le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y a un jeu de rôle papier, je crois, hein, qui est tiré de l'univers de Dragon Age. Et on va continuer dans un style, pareil, très, très léger, avec Ico, sorti sur PS2 en 2001. Donc la Ico Team, on la présente plus, c'est les mecs qui ont fait Shadow of the Colossus juste après. On va diffuser un morceau qui s'appelle You Were There, musique de Michiru Oshima. Faut savoir que Ico, le thème principal du jeu, a été inspiré par la chanson Scarborough Fair de Simon & Garfunkel. Oh. Et là, on va écouter... ouais, c'est pas des conneries. Et on va écouter donc ce thème You Were There, qui est le générique de fin, qui est interprété par Stephen Geraghty. Geraghty, c'est un Irlandais, enfin un petit peu de là-bas, quoi. Et ce mec-là, en fait, c'est un membre d'un ensemble d'enfants de chœur anglais qui est nommé Libera, et donc c'est un enfant de grenouille de bénitier avec sa voix super aiguë comme dans Les Choristes. Oh. Donc Ico, et là encore une fois, bah c'est pas de bol, hein, c'est encore Onink qui va user sa salive pour parler d'Ico.
Personne n'a joué à ce jeu ici, c'est vraiment incroyable. Vous l'avez pas encore fait. Moi j'ai joué à Ico après Shadow of the Colossus, donc que je considère comme un chef-d'œuvre absolu, hein. Et j'avoue avoir été un petit peu déçu. Je trouve qu'on s'ennuie un petit peu dans le jeu, on résout des énigmes assez simples, la progression est très linéaire. Après, en termes d'ambiance, c'est une tuerie, hein. L'architecture du château est splendide, certaines scènes sont vraiment cultes. Bon, là je vais pas spoiler vu que vous l'avez pas fait, mais il y a un passage un peu avant la fin qui est vraiment assez marquant. Donc c'est un jeu très contemplatif, hein. Faut pas être pressé, hein, quand tu joues à ça. Pour ce qui est de la musique, c'est une tuerie cosmique. Enfin, cette musique-là est une tuerie. Après, la BO, c'est surtout des bruits d'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de musique, mais alors celle-là, elle est vraiment, vraiment grandiose.
Moi, je connais un très très beau morceau de guitare aussi qui s'appelle Castle in the Mist.
Oui, bah, je crois que ça va être le deuxième morceau du jeu.
Ouais, qui est juste à la guitare, et c'est un morceau qui est magnifique.
Ouais.
Peut-être qu'on repassera un jour, ça en fait un podcast spécial guitare.
J'en profite pour annoncer gentiment à nos chers auditeurs que j'ai un ami... à moi qui s'est pris de qui comme ça a eu l'idée à un concert au micro de spoiler le dernier épisode de Game of Thrones et il s'est vu interdit d'entrer dans la salle pendant plusieurs mois, donc attention quand vous spoilez un truc on peut être très méchant,
c'est énorme.
Bref, You Were There, les enfants de cœur, Libera, à tout de suite.
Yeah.
pas sur ton chemin.
Non. T'as pas le droit.
Et si, forcément, moi c'est ça que ça m'évoque, ce,
non, mais arrête,
ce, attends, les magnifiques, ce chant lyrique, ce chant majestueux d'enfant.
Dans... On peut pas dire ça, arrête. Si. Mais, arrête de parler comme ça, on dirait un pédophile. Ou un prêtre, c'est pas grave.
Ico You Are There, un morceau chanté par Steven Gerrati, composé par Michiru Oshima. On va passer à un jeu français, mesdames et messieurs. Beyond Good and Evil, sorti en 2002 par Ubisoft. Sorti sur pas mal de supports, hein, sur PC, sur GameCube, et sûrement sur d'autres, je les ai pas en tête, hein, sur PS2. On écoute un morceau qui s'appelle Mamago's Garage, donc qui est le thème du garage de Mamago, on va rien inventer. Un reggae composé par Christophe Hérald. D'ailleurs, c'est assez surprenant, cette BO de Beyond Good and Evil, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes chantés. Par rapport à d'autres jeux, on les a dans le jeu, il y a des thèmes chantés, ce qui est quand même assez rare, et dans beaucoup de styles différents. Donc on attend toujours la suite, hein, de Beyond Good and Evil, dont le développement a été commencé en 2007 d'après certaines sources, donc ça commence à faire un moment. Et un jeu qui est, de façon assez surprenante, blindé de références à la philosophie de Nietzsche. D'ailleurs, c'est pas compliqué, l'ouvrage principal de Nietzsche, c'est Beyond Good and Evil, par-delà le bien et le mal, prélude d'une philosophie de l'avenir. Donc je vous invite à lire un article de blog que j'ai fait il y a à peu près un an de ça, au tout début du Poulpi Blog, où j'avais fait le parallèle entre Beyond Good and Evil et la philosophie de Nietzsche. Un petit reggae pour nous mettre un peu dans l'ambiance ethnique, dans l'ambiance tout le monde est ami avec tout le monde, parce que là, de l'ethnie, vous allez en avoir, avec Civilization 4. On va diffuser le morceau de Civilization 4, qui est un peu presque le thème chanté du jeu vidéo depuis quelques temps.
Ah, grave.
Bah, y est tout. Civilization 4, pour replacer dans le contexte, c'est un jeu de stratégie sorti en 2005, développé par Sid Meier. Les musiques sont de Jeff Briggs, mais Baba Yetou, c'est un morceau qui est composé par Christopher Tin, un titre qui signifie « Notre Père » en Swahili, qui est une interprétation de la prière au Seigneur. Qui a quelque chose à rajouter sur Baba Yetou ?
Ben, moi c'est un morceau que j'ai découvert en fait en écoutant l'album du Video Games Live, où cette musique apparaît, il la refont pendant le concert, donc avec deux choristes. C'est pas exactement la même version que celle qu'on va vous passer. Et moi, c'est un morceau que je connaissais absolument pas, parce que bon, je m'étais pas penché sur les BO de jeux stratégie plus que ça. Et il m'a foutu une claque. J'ai pris une claque avec ce morceau, parce que les musiques à tendance africaine, il y en a pas non plus des masses dans la musique de jeux vidéo, et celui-là, il est particulièrement magnifique.
À part dans le jeu vidéo du Roi Lion, évidemment.
Ouais, enfin bon, voilà. Mais c'est pas un jeu vidéo à la base, c'est un haut.
Oui, bon.
Et non, mais les chœurs sont magnifiques. Je trouve que la langue swahili range super bien. Le soliste a une voix assez fantastique.
C'est vrai, très beau morceau. Faut quand même souligner que Civilization, c'est le premier jeu à remporter un Grammy Award. C'était en 2005. C'était pour cette musique, justement.
Alors, donc, petite correction, la musique a été faite en 2005, mais le Grammy Award a été remporté en 2011.
Oh. Sérieux ?
Ouais.
Ah, j'avais lu 2005. Bon, bah. Donc en 2011, c'était pour cette musique, Baba Yetou. Donc les Grammy, pour rappel, c'est un célèbre festival de musique qui récompense les meilleures musiques de l'année. Donc c'était vraiment une grosse avancée pour les OST de jeux qui étaient négligés par le grand public, enfin qui le sont toujours, mais peut-être un peu moins. D'ailleurs, Journey aurait aussi pu succéder à Civilization, mais sa BO a seulement été sélectionnée au Grammy, mais sans rien gagner, donc c'est déjà ça.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
En tout cas, Baba Yetou, qui n'a pas que le Grammy Award à son palmarès, puisque le morceau a été utilisé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Mondiaux de 2009. Alors les Jeux Mondiaux, pour ceux qui savent pas ce que c'est une annexe des Jeux Olympiques, mais avec les sports totalement oubliés par les Jeux. Donc il y a des sports absolument abrutis. C'est en gros les Jeux Olympiques avec le bowling, avec les échecs.
Curling sur gazon.
Voilà. Il y a du rugby à 7, il y a du karaté. Tous les sports qui ne sont pas aux Jeux Olympiques sont les Jeux Mondiaux. Et donc Baba Yetou a illustré la cérémonie d'ouverture des Jeux Mondiaux de 2009. Baba Yetou, musique de Civilization 4. Et après on se retrouve si vous n'êtes pas parti en Afrique d'ici là.
Baba yetu yetu liye kunjina la koele tukuswe. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye kunjina.
Baïetou de Civilization 4 par Christopher Tin. Et donc j'en parlais tout à l'heure, Baïetou a illustré, a ouvert les Jeux mondiaux de 2009. Alors qu'est-ce que c'est que les Jeux mondiaux? On le disait, c'est un peu les Jeux olympiques, des sports oubliés par les Jeux olympiques. Et j'en ai trouvé quelques-uns des sports, et alors c'est absolument fabuleux. Il y a du fistball, la prière de ne pas rigoler s'il vous plaît, du netball, du chukball, du bateau dragon, de la pêche sportive, alors ça c'est quand même assez fabuleux. Il y a de la pétanque, il y a du bowling, il y a du billard, il y a de la nage avec les palmes. Il y a du culturisme, il y a le bon, évidemment il y a les sports dont on parle beaucoup pour les Jeux Olympiques à l'avenir, donc le rugby à 7, le karaté, le jujitsu, l'aïkido, le sumo, beaucoup d'arts martiaux. Il y a de l'aérobic, il y a du roller artistique. Enfin voilà, c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Je vais me renseigner sur quand est-ce que c'est la prochaine fois et sur où est-ce que c'est.
Ça, hein, ça c'est sûr.
Alors je vais vous dire ça tout de suite. Le prochain c'est en Colombie à Cali en 2013, donc là c'est dans un mois. Voilà, donc on suivra ça avec beaucoup d'attention.
Le rendez-vous est pris.
Et en Europe, ce sera en Pologne en 2017, voilà, à Wrocław. Donc le rendez-vous est pris, on ira.
Je veux un truc comme ça en France.
Mais si c'est en France, on va pas se faire prier pour y aller. Et on va quand même revenir un peu à des choses un peu plus sérieuses, ou en tout cas dans le sujet de Original Soundbloggers, avec en fond, vous l'entendez, Bastion, jeu téléchargeable sorti en 2011 sur diverses plateformes dont Steam et le Xbox Live. On écoute un morceau qui s'appelle Build That Wall, une magnifique ballade folk blues composée par Darren Korb. Je crois que c'est Victor qui a joué au Bastion.
Non, j'ai pas joué non plus.
Ah bah raté.
C'est juste que je suis assez friand des jeux indés ou alors des petits jeux qui sortent un peu à droite à gauche parce que les BO sont souvent de bonne qualité étant donné que ça fait souvent grandement partie de l'intérêt du jeu parce qu'il faut bien se vendre. Et Bastion, il possède une BO assez extraordinaire faite par Darren Korb, donc il y a énormément de morceaux de guitare très rock, même si ça mélange un peu tous les genres aussi. Et Build That Wall, donc c'est une chanson qu'on trouve, c'est la chanson thème d'un personnage, je crois. Très 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 belle balade, et Bastion il a surtout été connu pour son gameplay qui est très sympa, c'est un espèce de hack and slash en 3D isométrique, et pour son graphisme, qui a un style cartoon très très coloré. Tous les décors sont faits à la main, enfin c'est assez magnifique. Je crois qu'ils vont sortir un nouveau jeu dans pas longtemps, j'ai oublié le titre, mais qui est assez attendu.
Ouais, sinon, Darren Korb, on n'a pas trop d'infos sur lui, mais je sais qu'il a fait des musiques de films pour la télé, mais on peut aussi noter que ce mec était champion national de rock band en 2010, donc moi aussi, la classe.
Ça, c'est de l'info.
Ouais.
Là, on a vraiment du champion, ouais. On va continuer avec un morceau de Gravity Rush qui a été proposé, je ne sais plus par lequel de vous.
J'ai découvert ça sur l'article de Nîmes que l'autre jour, qui a fait un article sur Gravity Rush et ah oui, qui a proposé un thème instrumental d'un thème chanté à la base. Ah. Donc, par curiosité, je suis allé écouter le thème chanté et j'ai beaucoup aimé. Donc, histoire de faire un podcast quasi 100% inédit et de pas faire de redites par rapport aux autres épisodes, eh ben, on a décidé de la mettre.
Un thème qui s'appelle 12 Shinundakara. Alors, je le prononce sûrement très très mal. Gravity Rush, un jeu sorti en 2012 sur PS Vita. Les musiques sont de Kohei Tanaka. Et je pense, j'en suis même persuadé, que c'est encore Onink qui nous en parlera le mieux, puisqu'il a fait un article dessus.
Oui, j'ai fait un article, mais j'y ai pas joué. Donc du coup, je vais faire un petit peu de redite par rapport à mon post d'il y a quelques jours. Enfin, pour vous, ce sera quelques semaines. Mais cette OST m'a vraiment... c'était vraiment une grosse surprise pour moi. Je la trouve complètement maîtrisée, variée et super bien orchestrée. Je pourrais sûrement jamais jouer au jeu à cause du support, donc la PS Vita. Mais je me console avec la musique que j'écoute très régulièrement maintenant. On espère que le compositeur, donc c'est Kohei Tanaka, c'est ça. On espère qu'il va bosser sur d'autres gros jeux à l'avenir, car il a vraiment beaucoup de talent. Il a pas fait grand chose d'autre dans le jeu vidéo, malheureusement.
Ouais, c'est vrai que c'est un jazz vraiment très très entraînant, très très sympa à écouter. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs tout de suite. Donc 12 Shinundakara, j'en prends.
Je galère
énormément pour le sortir celui-là. 12 Shinundakara. Gravity Rush, donc par Kohei Tanaka. Une très belle pièce de jazz qu'on écoute tout de suite. Dakara ou Daose Shinun Dakara ou Douce Shinun Dakara. En fait, on ne sait pas parce qu'apparemment, il semblerait que ce soit une langue imaginaire, donc on n'a qu'à le prononcer imaginairement. Donc c'était Gravity Rush à l'instant sur OSB, toujours en compagnie de Poulpy Blast moi-même, de Victor c'est lui et de Onink c'est lui mais c'est l'autre.
J'ai pas tout compris.
Non, c'est pas grave. On va passer à un jeu français, messieurs dames. Oui, messieurs.
Encore une fois.
Comme avec Beyond Good and Evil tout à l'heure, effectivement. Dishonored, un jeu sorti en 2012, développé par Arkane Studio, mais édité par Bethesda. Jeu d'infiltration sur fond de vengeance et de steampunk. Des musiques de Daniel Licht, qui a remplacé Akira Yamaoka sur les Silent Hill, notamment. Et qui est surtout connu pour ses musiques de films. Et je crois que Dishonored, personne n'y a joué non plus par ici.
Non.
Bah, moi j'ai le jeu sous blister depuis Noël, mais j'ai toujours pas eu le temps d'y jouer. Mais il me tente bien en tout cas. La direction artistique a l'air vraiment classe. Il a l'air d'avoir pas mal de possibilités au niveau du gameplay, plusieurs styles, infiltration, bourrin. Et ouais, ça a l'air pas mal.
Bah, je sais que c'est... les gens sont assez partagés sur le gameplay de Dishonored, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la direction artistique est quand même globalement de très très bonne qualité. Apparemment, oui. Au niveau de tout ce qu'architecture notamment, c'est très très bien travaillé. Donc je pense que c'est plus un jeu à jouer pour l'univers que pour le gameplay.
C'est vrai que le steampunk, ouais, ça se fait de plus en plus. BioShock, je pense, a clairement montré la voie de toute façon. Et c'est un univers qui attire beaucoup le joueur et le non-joueur même de manière générale. Et donc là, on écoute un thème un petit peu dérangeant, un petit peu... ça me fait penser un petit peu finalement à des galériens qui seraient tous en train de chanter en même temps, avec des voix d'enfance très... Je trouve que le principe est très dérangeant.
Complètement.
Écoutez, comme on n'a pas grand chose à dire de plus sur Dishonored, on va directement passer à la suite. Un jeu quand même déjà bien connu, on va le dire, hein, qui a été sujet à de grandes controverses, notamment sur des scènes homosexuelles. Mass Effect, on va diffuser le thème de fin, hein, le ending. Et c'est pas compliqué, sur mes notes, j'ai marqué « Thème de fin de Mass Effect, laissez Onink en parler
». Quel salaud. Donc oui, Mass Effect, comme je le disais tout à l'heure, c'est le pendant science-fiction de Dragon Age, même si je l'ai trouvé un peu plus maîtrisé dans l'ensemble. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un RPG, enfin, même si le premier est très action, surtout comparé à d'autres jeux du studio Dragon Age en tête, qui lui est un jeu de rôle pur jus. Donc bref, comme je le disais, Mass Effect, c'est une véritable épopée galactique. Le premier épisode est généralement l'épisode le plus apprécié par les fans, même si moi j'ai bien aimé le second aussi. Donc ouais, comme souvent pour les thèmes chantés de jeux vidéo, on entend dans le générique de fin, elle a été produite par un groupe de rock indépendant, le groupe Phones, qui s'est aussi chargé du générique de fin du troisième épisode, qui est très sympa aussi, mais qui n'est pas chanté. C'est pour ça qu'on a choisi le générique du premier épisode.
Bon je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, qu'on va écouter ça tout de suite. Un thème qui sera pas diffusé en intégralité, puisqu'il fait en tout 8 minutes 18. Ouais, si vous voulez l'écouter dans sa totalité, on vous conseille YouTube. Donc Mass Effect, le générique de fin, à tout de suite. petite aventure du côté du rock, un petit côté de Depeche Mode, moi j'ai trouvé dans ce ending de Mass Effect. Bon, on va continuer justement dans cette veine très rock, très punchy, avec Sonic Adventure 2, connu également sous le nom de Sonic Adventure 2 Battle dans sa version GameCube, un jeu sorti initialement sur Dreamcast en 2001. Une histoire qui se découpe en deux scénarios, hein, celui des gentils avec Sonic et celui des méchants avec Shadow. Donc on pouvait jouer avec Robotnik et tout ça. Et on pouvait élever des Chao ou des Chao, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Donc ça vous donnait un petit gameplay un petit peu pokémonesque, on va dire, à Sonic, qui a été très décrié par certains. Et on peut débloquer une version 3D de la Green Hill Zone dans ce jeu en rassemblant les 180 emblèmes. On va écouter donc un morceau qui est le thème du premier niveau, City Escape, un level design qui est basé sur la ville de San Francisco. Et c'est à mon goût ce qui peut expliquer la présence de ce titre-là, qui est vraiment très typé punk californien, un peu à la Sum 41, à la Blink 182, mais sans les couilles, on va dire. Composé par Jun Senoue et interprété par Ted Polley et Tony Harnell. Vous, Sonic Adventure 2, non, pas trop, je crois.
Non, pas vraiment. Voilà. Moi, c'est la série des Sonic, c'est vraiment une série qui m'a jamais attiré. J'ai essayé d'y jouer 2-3 fois, mais je me suis ennuyé comme pas possible.
Vous écoutez en fond ce City Escape pour aller vers des trucs encore plus bourrins. Voilà, on va monter crescendo comme ça et on va vous diffuser la musique. Je pense qu'on n'aura jamais diffusé plus bourrin dans OSB et on le fera plus. Mais petite pensée aux amateurs de musique métal sur Gameblog, dont je fais partie, c'est un peu pour ça que j'ai fait le forcing pour cette musique aussi. C'est une musique de God of War 2 qui s'appelle Blood and Destiny. Donc un titre d'un groupe qui s'appelle Shadows Fall, très basé sur le gros son évidemment, parce que c'est un groupe américain et que les américains ils aiment le gros son. Un groupe formé en 95 qui a été quand même nommé 2 fois aux Grammy Awards. Shadows Fall c'est quand même pas un groupe de clampin, alors c'est un groupe qui a pas forcément beaucoup percé en France, parce qu'il s'est un peu inscrit justement dans cette mouvance américaine de groupes qui ont que du gros son, et finalement derrière la musique, bah, y a pas grand chose, y a juste des riffs et du gros son. Et il y a tellement de groupes américains qui font ça qu'en France ils passent un petit peu inaperçus, faut vraiment faire un truc exceptionnel pour se démarquer du lot. Et Shadows Fall c'est maintenant un peu plus connu depuis que leur guitariste joue aussi dans Anthrax. Anthrax c'est un des membres du Big Four of Thrash, comme on les appelle, qui regroupe aussi Metallica et Slayer, des groupes un peu plus colossaux. Donc God of War 2, Blood and Destiny, on parlait un petit peu de God of War hors antenne, et on disait mais quand même cette série, quand est-ce qu'elle va s'arrêter quoi.
Bah moi God of War j'y ai pas joué parce que c'est vraiment. Je suis pas fan de Big Demo quoi, donc bon ça m'a. Je me suis dit que j'allais pas dépenser des sous pour une série que j'aimais pas. Mais par contre je trouvais que l'idée de réinterpréter la mythologie grecque de manière trash était vachement intéressante. Sur les premiers épisodes je trouvais que la direction artistique était très sympa, enfin, il y avait un vrai travail de réinterprétation. Et puis ça s'est embourbé dans des intérêts commerciaux, ils ont commencé à faire des jeux et à enchaîner et à finalement s'enfermer dans ce qu'ils faisaient. Et du coup le scénario comme tu disais devenait complètement n'importe quoi. Un peu trop dicté par les gros sous, c'est dommage.
Ça, faut quand même rappeler, alors je pense pas que ce soit un spoiler que de dire ça, que sur 3 et maintenant 4 épisodes de God of War, mais en tout cas sur les 3 premiers épisodes, il y a quand même le personnage principal qui meurt 3 fois et qui ressuscite 3 fois. Donc à partir de là, on se dit, il y a peut-être un problème et peut-être qu'ils ont envie de le faire revenir sans arrêt, pour pouvoir sortir des jeux supplémentaires. Il y a Zeus qui meurt 2 fois, enfin, c'est la fête au carnage.
Ce qui est dommage en plus, c'est qu'ils ont vraiment un talent artistique, donc du coup, ils s'enferment dans des repompes à chaque fois de ce qu'ils savent faire, et c'est un peu dommage. Que ce soit de la réinterprétation de la mythologie me gêne pas, mais quand c'est tout le temps la même chose, c'est un peu dommage.
Ouais, voilà, d'ailleurs, la bande-son aussi, c'est un peu dans ce même style, où voilà, c'est une musique classique qui est très grandiloquente, qui est très épique, qui va bien avec la mythologie, justement. Et en fin de compte, on se rend vite compte que sur les 3 épisodes, en fait, il y a 2 thèmes, pas plus. Il y a le côté Gérard Marino qui a composé le thème principal de God of War qui est juste exceptionnel, mais que quand tu l'as écouté une fois, bah t'as écouté la moitié des 3 BO. T'as l'autre moitié, c'est un thème supplémentaire, c'est tout.
Ça a été financé par Capcom ou quoi là?
C'est possible. Voilà, et on passera le côté un kebab pour un tweet pour God of War Ascension, n'est-ce pas?
C'était énorme ça. Enfin c'était énorme, non c'était pathétique, mais c'était énorme. Les mecs ils font, bon allez les gars, on vous offre un kebab et vous me faites un tweet pour la pub du jeu.
C'est génial.
Ok, bon.
Les mecs qui ont pensé ça sont grands quand même.
Non, ils sont cons.
Aussi.
Non, ils sont cons. Je veux dire, c'est lamentable de faire un truc comme ça. Quoi.
On se lance un peu dans le gros métal qui tâche. Petite pensée donc à tous les métalleux de Gameblog. God of War 2, un titre Shadows Fall qui s'appelle Blood and Destiny, ou plutôt j'oserais dire... Ah En espérant que votre pacemaker n'aura pas rendu l'âme en écoutant ce morceau, vous êtes toujours sur OSB, normalement, et donc vous venez d'écouter Blood and Destiny de la BO de God of War 2. On va passer à un morceau culte maintenant, un morceau de Portal, qui est le générique de fin d'ailleurs de Portal, qui s'appelle Still Alive.
Space.
Donc Portal, un jeu de 2007 développé par Valve. Des musiques de Kelly Bailey, un générique de fin chanté par GLaDOS, hein, l'ordinateur.
Des musiques de qui ?
De Kelly Bailey.
Ah bon ?
Oui.
C'est pas Jonathan Coulton ?
Eh ben, il va falloir que je me renseigne. Parce que moi, j'ai noté Kelly
Parce
Bailey.
Parce que moi, j'ai Jonathan Coulton et Mike Moraski, donc, qui est le compositeur d'Half-Life. Pas d'Half-Life, de Team Fortress 2, pour le 2 en tout cas.
En fait, les trois, je viens de vérifier, les trois noms sont dedans. Kelly Bailey, Mike Moraski et Jonathan Coulton.
Pardon.
Ah, la chanson du générique de fin Still Alive est écrite par Jonathan Coulton et chantée par Helen McLean, la voix de GLaDOS. Donc c'est toi qui as
la voix du prochain Guillermo del Toro.
La chanson fut par ailleurs disponible en téléchargement gratuit pour le jeu vidéo Rock Band le 31 mars 2008, comme quoi tous les esprits se rencontrent. On en parlait tout à l'heure de Rock Band avec le champion du monde. Bref, donc Still Alive. Et la vidéo de YouTube de Still Alive a été vue 18 millions de fois.
Non mais je pense que c'est un des génériques de fin les plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. C'était tellement inattendu à l'époque déjà que Portal était une bizarrerie et une espèce de trouvaille de gameplay génial. Et alors ce générique, avoir le personnage et le méchant principal de l'histoire qui vous parle pendant le générique, c'est génial quoi. Et du coup, ça a occasionné moult reprises avec des mecs qui chantent tellement faux dessus.
Au bout d'un moment, c'est obligatoire quand un thème est connu d'avoir des mecs qui font de la merde dessus, c'est très drôle.
Voilà. Par rapport à Portal, si vous avez pas fait le 1, c'est pas très très grave parce qu'il est pas très long, le scénario est finalement pas si génial que ça. Par contre, jouer au 2, ça c'est obligatoire parce que le 2, déjà au niveau du gameplay, c'est vachement amélioré, il y a des trouvailles en plus. C'est un des jeux les plus drôles que je connaisse. Il y a une richesse d'écriture qui est géniale, très très bien écrit, il y a des répliques qui sont cultes, il y a des personnages qui se rajoutent qui sont complètement barrés, Woodfless a des personnages les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo. La chanson de fin est géniale, contrairement à ce que dit Juactu qu'il a émis dans les points négatifs de son jeu.
C'est les connards.
De son test, où vous avez mis point négatif la chanson de fin. Et non, c'est jouez-y, et en plus il y a Space.
Voilà.
Vous comprendrez.
Par contre, je suis pas d'accord, je pense que Portal 1 il faut le faire aussi. Hein. C'est aussi une tuerie en termes de game design. J'ai trouvé d'ailleurs les énigmes du 1 un peu plus corsées et inspirées que celles du 2. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'histoire et qu'en dehors de Still Alive, il n'y a pas beaucoup de musique.
Ouais, mais par contre, le 2, au niveau de l'écriture, il est énorme.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Ah, il y a des... Enfin, moi, il y a des répliques, j'étais mort de rire. Par exemple, t'as un moment où tu dois sauter sur un bumper. Puis tu sautes une première fois, ça marche pas. Sautes une deuxième fois, ça marche pas non plus. Et puis tu te retrouves à sauter 5 fois sur le truc parce que GLaDOS te dit que c'est trop gros et que tu peux pas sauter. Donc du coup, il est obligé de recalibrer le truc parce que tu passes trop. Il y a que des petits trucs comme ça à adresser à l'héroïne. Enfin, c'est génial.
Portal, jeu à faire, hein, n'est-ce pas? Et on va passer à un autre jeu à faire parce qu'un jeu assez pas inattendu, mais finalement qui vient casser certains codes du jeu, car basé sous la forme d'une série finalement. Le jeu de l'année 2012, parce que lui, pour le coup, il a vraiment été nommé jeu de l'année 2012. C'est pas un avis subjectif, hein.
Ah oui, je suis d'accord.
The Walking Dead. D'ailleurs, le jeu basé davantage sur les comics que sur la série télé, je crois. Ouais. Mais Victor va nous en parler mieux.
Alors je l'ai pas fini, hein. Je suis en plein dedans. Ceux qui suivent mon actualité Gameblog en ce moment le savent bien parce que je suis en train de faire des statuts dessus. Parce que je suis en train de craquer complet sur ce jeu. J'ai eu la chance de le faire parce qu'il y a un certain Big Quick qui me l'a offert gracieusement au détour d'un statut où il disait. Parce qu'il y a eu un Humble Bundle Telltale où il me fait ouais, voilà, moi j'ai envie de jouer à The Walking Dead mais j'ai pas envie d'acheter le bundle parce que j'ai pas envie de jouer à tous les autres jeux. Il me fait, au pire, t'achètes le bundle et tu me passes tous les autres jeux. Et je lui fais, ouais, au pire, tu fais l'inverse. Et ça se trouve que, voilà, il a acheté le bundle et il m'a passé The Walking Dead. Donc, je le remercie grandement, parce que je suis en train de prendre un pied pas possible sur ce jeu. Alors, The Walking Dead, c'est un jeu qui est adapté du comics, qui se déroule pendant une invasion de zombies. On contrôle Lee, un personnage qui va avoir une histoire assez tumultueuse et qui va rencontrer, en essayant de survivre, une petite fille qui s'appelle Clémentine. Et donc du coup ils vont essayer de survivre, comme ça ils vont rencontrer pas mal de personnages et puis l'histoire va se développer. Donc c'est un jeu épisodique, il y a 5 épisodes. Et en fait l'histoire s'adapte au choix que vous faites. C'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre point and click et film interactif. Et je pense que c'est un des premiers jeux que je fais qui a vraiment compris l'intérêt de l'interactivité. C'est-à-dire que ça vous met devant des dilemmes mais qui sont atroces. Et tel, ils ont compris que voilà, un joueur c'était aussi un humain. Et que du coup, un joueur ça a des sentiments, c'est capable de faire la part des choses entre certains trucs, mais c'est aussi, ça réagit aussi énormément à l'affect. Rien qu'à l'épisode 1, j'étais dans une espèce de malaise. Enfin, vraiment quoi. Parce qu'il y a des choix ou que vous arrivez à regretter, ou que finalement vous vous dites est-ce que j'ai bien fait de faire ça. Vous allez faire un choix qui va affecter énormément une personne de votre groupe. C'est super bien fait, et en plus, un truc que je trouve génial à la fin, c'est que, à la manière de Catherine, quand vous avez fini un épisode, il y a des stats. C'est-à-dire, vous et 33 autres pourcents de personnes ont tué tel personnage. Par exemple, moi, à l'épisode 4, je me suis retrouvé à avoir tué un personnage, et en fait, je faisais partie des 12% de personnes qui l'avaient buté, quoi. Donc, du coup, tu te sens super mal parce que t'es contre l'avis des autres joueurs, et des fois, tu te sens rassuré parce que t'es complètement avec leur avis. Enfin, c'est super bien fait et
c'est une bonne idée, ça.
Une espèce de culpabilité qui est géniale, quoi. Et là, apparemment, la fin est fantastique. Elle a arraché des larmes à plus d'un. Et moi, qui ne pleure jamais devant des œuvres de fiction, parce que justement, je suis assez détaché, je pense que ça risque de pas mal me secouer, étant donné à quel point le jeu est en train de me marquer. J'ai fini mon monologue. Vous pouvez y aller.
Ok. On va écouter les crédits de fin de Walking Dead de Take Us Back. Alors la BO dans son ensemble est de Jared Emerson Johnson et ce Take Us Back générique de fin a été crédité par l'artiste folk américaine Alela Diane. On va écouter tout de suite The Walking Dead Take Us Back et on se retrouvera après pour clore ce podcast en beauté.
Top the crags and cliffs, the air is thin. So we'll find a mountain path on down the hill. Meet me where the snowmelt flows. It is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stow. Braiding hair. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Take us back, oh, take us back, oh, take us. take us back. Out by the river's mouth, he knows the fiddle's cry is an old sound, a lonesome bow the creaks and moans of empty houses are songs like falling rain. Muddy ground, the strength of water can sink a man. Take us back, oh, take us back, oh, take us back.
Et après The Walking Dead, donc Take Us Back, interprété par Alela Diane, suite et fin de ce sixième épisode d'Original Soundbloggers sur les thèmes chantés dans le jeu vidéo. Parce que rappelons-le, une fois n'est pas coutume, il y en a des thèmes avec des vraies chansons dedans, avec du chant. Et il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et on se devait de leur rendre hommage à ces thèmes chantés. Et parmi ces thèmes chantés, il y a celui que vous entendez maintenant en fond, d'un western sorti en 2010 développé par Rockstar Games, des musiques de Bill Helm et de Woody Jackson. Je veux parler de Red Dead Redemption avec un morceau qui s'appelle Dead Man's Gun. Onink, tu as fait toi Red Dead Redemption?
Effectivement, bah Red Dead c'est un des jeux cultes de cette génération hein, qui a marqué pas mal de joueurs.
Alors, je crois que pour les chiffres on peut le dire, 11 millions de jeux vendus plus 2 millions pour l'extension Undead Nightmare, donc voilà, à l'échelle des jeux de
rôle,
c'est très 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 conséquent. Il n'y a plus beaucoup qui font ces scores là.
Ouais, donc pour moi c'est du Rockstar à son apogée. Donc ils ont repris tous les codes des GTA et les ont retranscrits dans l'univers, dans un univers western très crédible, tout en apportant pas mal de nouveautés comme la chasse par exemple, même si ça m'a un peu fait chier quand même. Sinon le bullet time, j'en ai oublié d'autres. Donc, bref, comme dans tous les jeux Rockstar, l'ambiance est super léchée, le scénario en lui-même va pas super loin. Donc c'est l'histoire d'un hors-la-loi, John Marston, qui veut effacer ses dettes en tuant ses anciens complices pour le compte de la police. Donc c'est assez simple, mais ça reste très agréable. Donc on va suivre l'épopée de John Marston. Il y aura pas mal de rebondissements, dont la fin qui est assez grandiose. Mais pour moi, la force de l'histoire, c'est surtout ses personnages et ses dialogues absolument géniaux, caricaturaux mais pas trop, avec beaucoup d'humour noir. Pour ce qui est de l'OST, ça colle bien avec l'univers. On sent quand même l'inspiration Morricone. Donc un des bons points de la bande-son, c'est qu'elle compte quand même trois musiques chantées qu'on entend, qui sont très bien placées. On les entend à trois passages clés du jeu. Donc, le premier, c'est Far Away, je crois, qu'on entend lors de l'arrivée au Mexique. Le second, c'est Compass, qu'on entend à un moment important avant la fin, qu'on va pas spoiler. Et enfin, celui qu'on écoute en ce moment, Dead Man's Gun, qu'on entend pendant les crédits. Trois thèmes excellents. Ça a été assez chaud de choisir, d'ailleurs, entre les trois.
Un thème qui est une balade d'Ashtar Command. Alors, je parlais tout à l'heure des compositeurs généraux du jeu. Donc, Onink, tu en parlais, très Ennio Morricone, très Western Spaghetti. Et là, donc, c'est une balade d'Ashtar Command. Donc, Dead Man's Gun, que vous écoutez en fond. Alors, moi, c'est vrai que, pour réagir à ce que tu disais, c'est vrai que, bon, la chasse, ça fait vite chier quand tu vas faire des quêtes à base de, aller buter 15 animaux introuvables dans la campagne. Mais après, j'ai beaucoup aimé, moi, voilà, ce côté vraiment très libre. Où,
l'environnement est super.
Voilà, l'environnement est super. Tu peux faire ce que tu veux. T'as des événements auxquels tu t'attends pas forcément. Genre un mec qui vient de buter ton cheval, un passant qui passe en caravane et il te dit, ah ben, j'ai un problème, venez m'aider. Et finalement, il vient te piquer ton cheval et tout en or. Enfin, il y a quelques, c'est vraiment très très subtil comme gameplay et c'est très intéressant. Après, un conseil, n'essayez pas d'aller buter les ours avec un couteau. Ça ne marche pas très bien. J'ai essayé beaucoup de fois. Et sur ces mots, sur ces bons conseils, chasse, pêche, nature et tradition, que nous allons terminer ce podcast. Donc, comme d'habitude, encore une fois, merci messieurs. Donc, merci Victor, merci Onink.
Mais de rien.
C'est normal.
C'est avec plaisir.
Oui.
C'est les bons trios fonctionnent à trois, j'ai envie de dire.
Merci pour ça. celle-là, on va la cadrer. On va en faire une punchline. Voilà.
Le mois prochain, donc fin juillet, on sera en été. Donc, on aura un thème estival et un invité. Alors, je sais pas si l'invité sera estival ou pas. Je pense pas que ce soit le mot le plus approprié, mais en tout cas, on aura un invité qui est déjà prévenu qui sera là. N'envoyez pas de MP pour cet été, c'est pas la peine.
Ouais, on veut pas, vous.
Vous pouvez faire, toujours poser des questions, vous pouvez toujours nous demander pour le mois de septembre, pour la rentrée, parce que nous, on sera toujours là. Merci encore de nous avoir écoutés, avec toujours plus de soutien de votre part et toujours plus d'écoute. Et on va terminer avec un jeu qu'on a beaucoup voulu diffuser. On a beaucoup voulu diffuser sa BO dans les podcasts précédents et on n'a jamais réussi vraiment à le caser. Et enfin, il arrive. Après beaucoup d'hésitations, on a enfin pu placer Alan Wake, qui est sorti en 2010 sur Xbox 360, puis en 2012 sur PC. Des musiques de Petri Alanko, et on va écouter un morceau pour terminer qui s'appelle The Poet and the Muse. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a joué à Alan Wake, mais que la BO effectivement revenait souvent sur le tapis.
Ah oui, oui. Je suis devenu complètement fan de cette musique. Quand je l'ai écouté, parce que c'est Onink qui me l'a proposé, ah ouais, je suis tombé dans la marmite, je me la passe en boucle depuis quelques jours, je trouve la voix du chanteur superbe, je trouve qu'elle est magnifiquement rythmée, en plus il y a le solo de guitare à la fin qui relance la dynamique.
Oui, bah, l'OST d'Alan Wake, c'est vrai que c'est une belle petite surprise. Il y a deux grands types de musique dans cette OST. Il y a les musiques plus classiques, plus orchestrales, qui sont très jolies, très sympas à écouter. Et aussi les morceaux rock qu'on entend. Moi, j'ai pas fait le jeu, mais on les entend assez régulièrement dans le jeu. Donc voilà, une excellente OST. Et ce morceau, c'est vrai que c'est une grosse tuerie.
Encore une fois, merci de nous écouter. Et à très bientôt, donc à fin juillet. Pour le 7ème épisode d'OSB, on sera encore là et j'espère que vous aussi. A très bientôt, ciao ciao.
Yo, bye.
Salut. There's an old tale wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Till in the stillness of wonder, and still in its misty crown, she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will meet the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. To the lake to call out to his dear. When there was no answer, he was overcome with fear. He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall, and only his own echo would wail back as his call. When he swore to bring back his love by stories he'd create, nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lake.
reshape destiny. In the dead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his great mistake, and vowed them both to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains, for it is said on moonless nights they may still haunt this place.
That's how you reshape destiny.